Circulaire Talks, le podcast de ceux qui font l'économie circulaire, créé par Circulaire en partenariat avec Courrier Cadre. Dans ce nouvel épisode des Circulaire Talks réalisé en partenariat avec Citeo, Sarah, directrice de la communication de Circulaire, et moi avons eu le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Michel, Innovation Manager chez Citeo, et Shu Zhang, CEO et cofondatrice de Pandobac, une start-up de l'économie circulaire spécialisée dans le réemploi qui aide les entreprises et les collectivités à passer des emballages jetables aux réutilisables. Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur, Shu décide d'ouvrir un restaurant en 2014. Cette décision qui peut surprendre est pourtant motivée par une envie profonde de ne pas se retrouver derrière un ordinateur tous les jours, mêlée à sa passion pour la gastronomie. Située Gare de Lyon à Paris, son restaurant est un semi-gastronomique dans lequel elle embarque ses convives avec des menus dégustation surprise. 4 ans plus tard, la fibre entrepreneuriale dans l'âme, Shu a une nouvelle idée pour mettre fin à la quantité colossale d'emballages qu'elle doit jeter après avoir reçu la marchandise de ses fournisseurs. Elle s'interroge « Et si au lieu de recevoir mes matières premières dans des emballages jetables, je les recevais dans des contenants réutilisables ?» L'idée de Pandobac était née. Avant de se lancer, elle fait des recherches pour savoir si ce type de solution existe déjà, elle étudie aussi les freins et elle se rend compte rapidement qu'une opportunité est là. Alors elle la saisit et teste son idée pendant 1 mois. La suite, découvrez-la dans l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, nous sommes ravis avec Sarah de vous accueillir Anne-Sophie et Shu dans ce nouvel épisode des Circulaire Talks, réalisé en partenariat avec Citeo. Cet épisode est le 3e épisode d'une série de 4 épisodes dédiés au Circular Challenge, un programme d'accélération de start-up de l'économie circulaire que vous avez initié il y a 6 ans, Anne-Sophie. À travers cette série, nous mettons en avant les entrepreneurs membres du programme, parmi lesquels Shu, lauréat 2019 avec la start-up Pandobac. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour Sarah.
Bonjour Alexia, bonjour Anne-Sophie, bonjour Shu.
Pour démarrer, Shu, chez Pandobac, votre mission est de réinventer le transport des marchandises alimentaires pour aller vers un modèle zéro déchet, respectueux de notre planète et profitable à l'ensemble des acteurs de la chaîne. L'idée de Pandobac t'est venue il y a 4 ans, alors que tu exerçais un tout autre métier que celui pour lequel tu avais été formée. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ?
Oui, effectivement, j'ai fait des études d'ingénieur. Donc, effectivement, de formation, je suis ingénieur. Et par passion de la gastronomie, de la cuisine, je me suis dit, quoi faire en sortie d'école ? Pourquoi pas ouvrir un restaurant ? Donc, idée un peu farfelue, mais qui me tenait vraiment à cœur. C'était vraiment un projet personnel. J'ai fait un CAP cuisine, j'ai ouvert mon restaurant en 2014. Au bout de 4 ans, il y avait cette question de qu'est-ce que je fais ensuite, parce que c'était un peu, un cycle était un peu terminé, j'avais monté le projet, ça marchait bien, sans moi, j'avais besoin d'un nouveau projet. Et le premier constat vraiment que j'avais, c'était que la gestion des déchets dans un restaurant était vraiment monstrueuse. De dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer peut-être cette filière que j'apprécie énormément et je suis toujours très très attachée personnellement et émotionnellement au secteur de la restauration. Et du coup, c'était de dire on va faire quelque chose sur ces déchets-là, d'où l'idée de dire au lieu de recevoir des marchandises dans des emballages à usage unique, de pouvoir apporter une solution réutilisable sur ces emballages.
Et donc Shu, en 2018, quand tu crées Pandobac, tu es encore restauratrice. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y es prise pour tester ton idée ?
Oui, alors c'était pratique en fait d'être encore restauratrice, mine de rien. Il y avait cette idée de dire je reçois des cartons, des cagettes en bois et des caisses polystyrène. Moi, j'ai cette idée de dire c'est possible de le faire en réutilisable. Mais en fait, si personne ne l'a fait, peut-être que c'est parce qu'il y a des freins très importants ou des choses qui rendent impossible cette solution. Donc la première étape, c'était de dire on va aller interroger des fournisseurs pour comprendre pourquoi aujourd'hui ils livrent dans du jetable. On est allé voir plein de fournisseurs et il n'y en a aucun qui avait vraiment une réponse. Et on a toujours fait comme ça. bon, c'est pratique, voilà, il n'y a pas de frein identifié. Et ensuite, on s'est dit, bah, dans ce cas-là, on va aller voir si certains sont intéressés pour tester du réutilisable. Donc, si on trouvait en fait un terrain de test, ça voulait dire quand même qu'il y avait un intérêt de la part de ces entreprises. Donc, on a cherché et on a trouvé un grossiste dans le marché de Rungis qui a accepté qu'on vienne tester, mettre des marchandises dans des bacs et que lui puisse les livrer à ses clients restaurateurs dans du réutilisable. Donc ça a été vraiment voilà, de la persuasion, disons, d'aller voir un peu tout le monde, de discuter avec tout le monde. Et on a fait un test complètement, on va dire, manuel et improvisé un peu, où on est allé acheter des bacs chez Ikea. Donc à l'époque, voilà, aucun budget, on s'est dit bon, allez, on va aller prendre un peu ce qu'on trouve. Donc on a acheté une centaine de bacs Ikea et on a fait un test d'un mois chez ce grossiste.
Et pour la modique somme de ?
Bah de, du coup, de 300 euros. Voilà, les bacs Ikea ne sont pas très chers. Sachez que vous en achetez à 3 euros pièce. Et non, non, et tout le suivi était fait manuellement. Enfin, et puis les équipes du grossiste étaient vraiment super. Ils étaient vraiment là à faire sérieusement, disons, le test. On avait un peu peur que ça soit mal pris par les opérateurs. Et en fait, c'était super. Donc on remercie grandement ce grossiste de nous avoir aidé à nous lancer.
Génial, et c'est super d'avoir ce retour du coup de ton expérience par rapport à ce premier test, parce que je pense à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être des projets d'entreprendre, et c'est vrai qu'il y a une étape qui nous est conseillée à tous quand on entreprend, c'est de tester sa solution pour tester l'usage, le marché, la réceptivité, etc. Et souvent, on a envie, parce qu'on croit à fond en son idée, de dépenser beaucoup d'argent et de passer du temps à ça pour aussi se rassurer. Alors qu'en fait, ton exemple, il vient illustrer l'importance de pas y passer beaucoup de temps, mais vraiment de faire avec les moyens du bord, entre guillemets, pour rapidement tester et voir et pouvoir ajuster et se dire, OK, bon bah là, clairement, tu as eu un résultat positif tout de suite, ce qui t'a permis de te lancer rapidement et de pas perdre de temps ni beaucoup d'argent. Donc, je trouve que c'est un conseil intéressant à partager avec tous les entrepreneurs peut-être qui nous écoutent. Je me retourne vers toi, du coup, Sarah. De ton côté, comme vous êtes des experts des sujets de circularité chez Circulaire, est-ce que peut-être que tu as des chiffres à nous donner sur ce que représentent les emballages jetables en France dans la restauration ?
Alors oui, bien sûr. Bah justement, à ce sujet, il y a un rapport de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui est sorti en février 2022 et qui dresse un état des lieux des emballages dans la restauration. Et ce rapport, il nous dit qu'en fait, on a 1,7 million de tonnes d'emballages à usage unique qui sont produits chaque année dans le secteur de la restauration, tout secteur confondu, restauration collective, sur place ou restauration à emporter. Ça correspond à 170 tours Eiffel de déchets, enfin d'emballages qui sont produits. Et donc c'est un lapsus assez révélateur que je viens de vous faire. Parmi ces emballages, on va retrouver des matériaux comme le plastique, le carton ou encore le verre. Et si on s'intéresse à la solution Pandobac, on voit qu'elle s'adresse aux emballages qu'on appelle secondaires. Donc c'est des emballages très importants parce qu'en fait, ils vont permettre de protéger les produits lorsqu'ils sont transportés de leur lieu de production ou de stockage jusqu'à leur lieu de vente. Et aujourd'hui, ces emballages secondaires, ils représentent environ un tiers des emballages jetables qui sont mis en circulation. Et pour la grande majorité, ces emballages, ils sont constitués de carton ou de, à plus faible mesure, de cagettes en bois et de caisses en polystyrène. Alors on pourrait se dire bah, que ce soit du carton, du plastique, on est en mesure de les recycler et donc de limiter leur impact sur l'environnement. Alors c'est vrai sur le principe, mais il faut voir que le recyclage a quand même un certain nombre de limites. D'abord, on estime qu'à environ deux tiers de ces emballages ne sont pas collectés et donc pas recyclés, et donc ils finissent par être enfouis ou incinérés, ce qui pose des problèmes d'un point de vue environnemental, notamment parce que l'enfouissement va avoir un effet sur la pollution des sols et l'incinération sur les émissions de CO2. Ensuite, parce qu'il faut voir que le recyclage, c'est une des boucles les moins vertueuses en fait, de l'économie circulaire, parce qu'elle va être très gourmande en ressources, notamment en eau et en énergie. Donc c'est une boucle moins vertueuse que le réemploi, par exemple, comme ce que propose Pandobac. Et enfin, on se rend compte aussi que le recyclage, ça demande un investissement en temps pour les restaurateurs. Comme tu as pu nous le confier, Chou, lorsqu'on préparait cet épisode, tu nous disais passer facilement 30 minutes, une heure chaque jour à plier les cartons pour qu'ils puissent être collectés et recyclés. Donc on voit bien que le recyclage a quand même des limites. Et au-delà de ces limites purement factuelles, on a aussi la réglementation qui se durcit, qui s'accélère sur ces sujets pour réduire l'impact environnemental des emballages, et on a la loi AGEC qui va notamment imposer dès 2023 aux producteurs et aux grossistes d'adopter en partie le réemploi des emballages et donc de se tourner vers des solutions comme PandoBac pour limiter le recours aux emballages jetables.
Je me retourne vers toi, Anne-Sophie. C'est vrai que chez Citeo, c'est aussi un de vos domaines d'expertise. Donc peut-être que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce constat qu'on peut faire et tous les chiffres dont vient de nous parler Sarah.
Oui, alors Citeo, pour rappeler, c'est une entreprise, une société à mission maintenant, qui a pour mission d'accompagner les metteurs en marché d'emballage à réduire l'impact environnemental du coup de ces emballages et des papiers graphiques. Donc c'est une entreprise qui existe depuis 30 ans, qui a fêté ses 30 ans cette année et qui travaille en fait avec l'ensemble de la chaîne de valeur, donc aussi bien les metteurs en marché d'un côté que de l'autre côté, et ça c'est très important aussi pour toute l'économie circulaire, les collectivités locales, les territoires, les opérateurs et les recycleurs. Donc on est vraiment le chef d'orchestre de cette filière d'emballage ménager de papier graphique. Donc jusqu'à maintenant, concentré sur les emballages du citoyen et pas sur ceux de la restauration. Mais bien sûr, c'est aussi un pan qui nous intéresse fortement. Et aujourd'hui, on travaille vraiment sur la réduction, le réemploi, le recyclage et le développement en fait de nouvelles filières pour tous les matériaux. L'idée, c'est vraiment d'avoir bien 100% de solutions pour tous les matériaux, que ce soit à partir de la réduction et de l'éco-conception jusqu'à la fin de vie qui passe parfois par le réemploi et puis ensuite tout de même par le recyclage, puisqu'aujourd'hui, dans la loi AGEC, on a aussi des objectifs fortement augmentés sur tous les matériaux pour atteindre le recyclage in fine.
Ok, c'est intéressant de voir que du coup, initialement, vous êtes plus sur les déchets donc, des citoyens, que vous finissez par vous y intéresser. Et c'est d'ailleurs certainement ce qui a dû jouer dans la balance le moment où vous avez décidé de prendre PandoBac au sein du Circular Challenge. Donc tu nous raconteras tout à l'heure peut-être ce qui a fait que vous avez été convaincu par le projet porté par Chou. Je me retourne vers toi, Chou, par rapport notamment aux chiffres dont Sarah nous a parlé, qui clairement, on comprend bien à l'écoute de ces chiffres tout l'intérêt de la solution que tu as développée. Donc est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien de clients vous accompagnez et qui sont ces clients en fait ?
Alors aujourd'hui, on travaille avec une trentaine donc, de fournisseurs alimentaires. Alors on appelle ça des fournisseurs parce que le profil est très varié. On a des grossistes donc comme celui avec qui on a commencé à faire le test, mais il y a également des distributeurs et on remonte aussi un peu plus haut dans la chaîne d'approvisionnement avec des producteurs directement, donc des coopératives de fruits et légumes, des marailleurs. Donc c'est vraiment tout ce qui est en amont d'un commerce ou d'un restaurant. À qui donc on s'adresse vraiment pour l'offre PandoBac. Et aujourd'hui, effectivement, un chiffre donc, dans le marché de Rungis, il y a à peu près un millier de grossistes. Donc on a encore beaucoup de marge, parce qu'on parle que de Rungis, donc il y a encore tout le reste de la France, l'Europe, etc. Effectivement, voilà, on a des profils et à Rungis uniquement, donc qui travaillent qu'avec l'Île-de-France, mais on a également des clients en Bretagne, autour de la région lyonnaise, donc on se développe beaucoup aussi, on appelle ça en région, pour des flux aussi au niveau national.
Et ce sont des clients, ceux qui sont en région, que vous avez du coup démarché ou qui ont entendu parler de la solution, peut-être par des acteurs qui étaient en Île-de-France. Enfin...
Bon, il y a les deux. Il y a vraiment les deux. On en a démarché beaucoup, hein, surtout au début. Parce qu'au début, on essaie de se faire connaître. Et en fait, le réemploi d'emballage, personne n'en parlait. Et c'était vraiment... Je l'ai dit aujourd'hui trop tôt, mais en fait, c'est pas trop tôt, mais c'était très tôt en tout cas d'avoir créé en 2018 et d'être allé voir les gens à ce moment-là, parce qu'on voyait que c'était pas du tout mature comme sujet. Mais on s'est fait connaître à ce moment-là et aujourd'hui, on voit vraiment la différence hein, où les gens viennent plus nous voir. On continue à démarcher, mais on a beaucoup, beaucoup plus de demandes entrantes qu'à l'époque.
Super nouvelle.
Oui.
Et Chou, quand on écoute ton témoignage de restauratrice confrontée à la problématique des emballages jetables, on peut imaginer que d'autres acteurs de la restauration, même de l'hôtellerie, sont sensibles à ces enjeux. Est-ce qu'ils jouent un rôle de prescription auprès de leurs fournisseurs pour les encourager à transformer leurs pratiques en matière de transport des marchandises ?
Alors, beaucoup, oui. Nous, on a pas mal changé aussi, disons, de stratégie, disons, de commercialisation. Au tout début, c'était plus facile justement d'aller voir des restaurateurs, de leur dire, regardez tous vos déchets, en fait. Et tout de suite, ils étaient hyper réceptifs parce qu'en fait, ils vivent la même chose que ce que j'avais vécu. Donc, c'était hyper facile. Moi, dès que je disais en plus que j'avais aussi un restaurant qui était situé à tel endroit, tout de suite, c'était un peu, on fait partie de la même famille, donc c'était vraiment facile d'aller les voir et justement comme ça en fait on a eu nos premiers clients fournisseurs discutant avec des restaurants, donc parce que les restaurants ensuite en parlent à leurs fournisseurs et les fournisseurs après sont venus nous voir, donc c'était vraiment un gros levier. Et aujourd'hui en fait de moins en moins, enfin nous on fait de moins en moins d'efforts disons pour aller voir directement les restaurants, notamment parce que comme je disais les fournisseurs nous connaissent et viennent de plus en plus nous voir directement. Donc, il y a moins besoin, entre guillemets, de passer via les restaurateurs. Et en fait, très régulièrement, les restaurants nous contactent aussi directement. Un exemple, là, très récemment, on a fait tout un échange avec le Meurice, du coup, Palace Parisien, où une personne des achats m'a donné la liste totale des fournisseurs en disant qu'est-ce que vous pouvez faire avec nos fournisseurs, c'était vraiment une démarche volontaire de la part de l'établissement. On fait des actions un peu de temps en temps, plus coup de poing envers les restaurants, où là dernièrement on a effectivement une collaboration avec un Instagrammeur food qui a parlé de nous effectivement dans un post.
On peut le nommer ?
Coup c'est Mon Paname.
Très bien, on ira voir. Tu disais tout à l'heure que vous aviez changé de stratégie de commercialisation. Est-ce que du coup ça a eu un impact aussi sur le business model ? Est-ce qu'il y a eu quel est votre business model et est-ce qu'il y a eu une évolution depuis la création ?
Effectivement, on a changé de business model aussi. Au final, ça fait 4 ans et nous, on reste, je pense, dans une démarche beaucoup de start-up où on apprend en continu et on modifie, disons, notre offre aussi en fonction de ce qu'on apprend et en fonction de discussions, des prospects, des clients. Nous, on était parti vraiment au début sur une offre. On s'était dit, on va facturer par bac par mois, c'est-à-dire que chaque bac qu'on immobilise pour un client, on lui facture en fait au mois, comme un système disons de location. Donc pour nous c'était assez facile à comprendre et de dire en plus que plus le bac tournait en fait dans un mois, a priori, plus la rotation en elle-même coûte moins cher. Donc, on avait cette idée de dire, on va inciter comme ça les clients à faire tourner le plus possible les bacs pour que ça leur revienne le moins cher possible à la rotation. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une bonne idée à la base, mais que c'était très compliqué pour les clients ensuite de pouvoir... En fait, ils ne suivaient pas ces rotations-là. Parce que c'est des entreprises qui sont dans leurs activités au quotidien. Leur activité, c'est d'acheter, ensuite de transformer des produits, de les revendre. Donc, en fait, l'emballage, c'est complètement secondaire. Donc là, on s'est dit, on va simplifier tout. Et maintenant, on facture effectivement à la rotation. Donc, à chaque fois qu'un bac va faire une utilisation, enfin un cycle, on va facturer un coût qui est moins cher aujourd'hui que l'emballage jetable. Et de moins en moins cher parce que l'emballage jetable coûte de plus en plus cher.
Et Chou, tu nous confies en préparant l'épisode que début octobre, vous aviez battu le record de signature de nouveaux clients en une semaine. Donc déjà, félicitations. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu expliques cette accélération sur ces sujets ?
Alors en fait, on l'explique pas trop parce que je pense que c'est énormément de facteurs différents qui rentrent en jeu, entre aussi un hasard de timing. Mais ce qu'on ressent vraiment sur une année, on va dire, enfin sur entre l'année 2019 et maintenant 2022, c'est quand même que les gens sont de plus en plus matures, les entreprises sont de plus en plus matures sur le sujet du réemploi d'emballage. Ils savent déjà ce que c'est, alors qu'en 2018, ils ne savaient pas. Et ils sont prêts, en fait, à passer le cap. Donc je pense que voilà, les entreprises avec qui on était en discussion pendant 2 ans, en fait, elles se réveillent maintenant parce que y a des réglementations qui passent, ils sentent que c'est des choses qui sont de plus en plus demandées par leurs clients, parce qu'on en parle de plus en plus. Enfin, c'est tous ces éléments, je pense, qui font bouger ouais, les entreprises, et on le ressent vraiment.
Et tu nous parlais tout à l'heure du coup de la trentaine de clients que vous avez avec des typologies différentes. Et ces 30 clients représentent combien de bacs en fait?
Oui, alors aujourd'hui on a à peu près 20 000 bacs en circulation. Donc c'est environ 2000 envois par jour de bacs. Voilà. Ça représente du coup 2000 emballages jetables évités par jour, sachant que c'est quand même des gros emballages, hein, parce qu'on parle vraiment de carton, de grosses cagettes en bois, etc., qui pèsent presque un kilo chacun. Donc ça fait effectivement pas mal de déchets en moins par jour. On est assez content de ce chiffre.
Génial. Et par rapport au bac, justement, est-ce qu'il y a des tailles différentes en fonction des produits?
Oui, alors on essaie au maximum de vraiment limiter le nombre de modèles et de types de bacs. Pourquoi? Parce que dans le réemploi, ça c'est quelque chose que les gens qui sont familiers en tout cas avec le principe du réemploi d'emballage disent souvent, c'est qu'il y a vraiment un enjeu de standardiser et de pas, si chacun a son propre emballage et que du coup on doit réutiliser un seul type d'emballage pour chaque client, en fait on se retrouve qu'avec des boucles fermées et des boucles qui sont pas optimisées. L'idée du réemploi d'emballage, c'est de dire il y a un emballage où il y a plein d'entreprises qui peuvent l'utiliser, et du coup les boucles, on arrive à les optimiser et à faire circuler aussi plus rapidement les emballages. Donc nous on a deux modèles principalement de bacs. Un pour les poissons, pour tout le secteur de la marée, parce que c'est très spécifique comme secteur, et un autre modèle de bac pour tout le reste, donc fruits, légumes, épicerie, viande, crèmerie, etc. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et effectivement, parfois on a des clients qui nous disent c'est pas exactement les modèles qu'on recherchait, mais en expliquant le principe du réemploi d'emballage, on arrive à se mettre d'accord sur des standards.
Ok, et j'ai vu en arrivant tout à l'heure que tu avais avec toi un bac. Du coup, lequel des deux c'est?
Alors ça, c'est un bac effectivement marée et petit format. Donc c'est pour des filets de poisson, par exemple.
Ok, on vous le mettra en photo avec le lien de l'épisode.
Et en plus des bacs réutilisables, vous avez développé dès fin 2018 une application. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors effectivement, nous, dans l'offre, très rapidement, on fournit donc des bacs réutilisables, donc ça c'est assez clair. Il reste à nous et on fournit, disons, l'utilisation des bacs, donc on gère tout le stock, etc. On s'occupe donc de les récupérer une fois qu'ils sont sales, on s'occupe de les laver également, et tous les flux, en fait, parce que ça va passer de main en main, les bacs, donc il faut d'une manière ou d'une autre les suivre. Nous, on a décidé très rapidement et dès le début, dès 2018, de développer notre propre application de suivi qui vraiment enregistre tous les flux, les stocks de tous les bacs. Il y a énormément d'informations qui sont associées à chaque bac et ils sont suivis unitairement. Donc, on n'a pas deux bacs qui ont le même identifiant, ce qui permet vraiment de tracer tout l'historique d'un bac. Et nous, ça nous aide à aussi calculer notre impact. Mine de rien, on a vraiment toutes les informations exactement de savoir combien de bacs ont circulé tel jour, le temps d'immobilisation des bacs aussi. Ce qui est important, c'est de savoir si le bac il va circuler juste deux fois dans un an, c'est pas très intéressant. Donc on essaie d'optimiser ça aussi. Et pour les clients, ça leur apporte aussi une visibilité pareil sur leur impact et sur les flux qu'ils vont envoyer.
Et justement, tu abordes la notion d'impact. Est-ce que tu es en mesure de nous partager quelques chiffres du coup sur l'impact positif que ta solution a permis de voir émerger?
Alors nous, aujourd'hui, on dit qu'on a fait économiser, disons, 400 000 emballages donc jetables depuis le début de l'aventure. Donc c'est un ordre de grandeur. Et comme je disais, vu que ça un emballage, c'est presque un kilo, on estime à 300 tonnes à peu près de déchets évités depuis le début de l'aventure. Et on a fait, nous, dès 2018, d'ailleurs, enfin 2019, fait faire une ACV, donc une analyse de cycle de vie, qui nous a vraiment permis de déterminer l'impact précis par bac utilisé par rapport à un emballage jetable. Les chiffres sont assez intéressants. On est à peu près à 4 fois moins de CO2, de consommation d'eau et de vraiment génération de déchets que l'emballage jetable. Donc c'est
impressionnant.
Donc c'est assez on est assez content aussi de cet impact.
Anne-Sophie, je me retourne vers toi maintenant. Chou a été lauréate du Circular Challenge en 2019, on le disait du coup en démarrant cet épisode. Est-ce que tu peux nous rappeler l'objectif de ce programme que donc Citeo a initié et aussi nous expliquer finalement qu'est-ce qui vous a convaincu pour décider de prendre PandoBac dans ce programme ?
Oui, alors Citeo a en effet créé un programme d'innovation ouverte il y a de ça 6 ans qui s'appelle toujours Circular Challenge, qui était au départ un concours vraiment d'innovation et de start-up et de porteurs de projets de l'économie circulaire, des emballages ménagers et des papiers. Et puis qui a évolué et qui s'est transformé en vraiment un accélérateur de projets impact de l'économie circulaire, toujours bien sûr sur les emballages et les papiers. L'année dernière et qui a vocation vraiment à accompagner les porteurs de projets à passer à l'échelle, à industrialiser leurs solutions, parce qu'on s'est rendu compte que s'il y avait dans ces dernières années beaucoup de gens et beaucoup de porteurs de projets qui se lançaient sur ces sujets-là, c'était vraiment difficile d'effectuer le passage à l'échelle et l'industrialisation parce que passer d'un modèle linéaire qu'on connaît tous et qui est ultra dominant à un modèle circulaire, c'est très complexe, ça nécessite, et on le voit aussi avec Chou, vraiment de transformer les modèles d'affaires, la création de valeur, de se connecter à d'autres acteurs que ceux avec qui on pouvait travailler auparavant, de faire changer et les comportements et les façons de faire. Bon, bref, beaucoup de défis à relever. Et donc, chez Citeo, on pense que c'est notre rôle, en tant que chef d'orchestre de ces filières et au contact finalement de toute cette chaîne de valeur, d'être là pour accompagner, accélérer les porteurs de projets, quels qu'ils soient, donc start-up, associations, mais aussi PME qui se transforment et qui se renouvellent. Et bien sûr, nos clients et toutes nos parties prenantes qui sont engagées eux aussi dans la transformation et qui cherchent finalement des solutions pour aller plus vite et pour accompagner cette transition. Et pourquoi PandoBac ? Alors PandoBac a été lauréat en 2019. Chou a gagné le prix de l'innovation collaborative. Et je pense que c'est important. On avait créé ce prix justement pour mettre en valeur des innovations qui n'étaient pas forcément des innovations techniques ou technologiques, mais plus des innovations d'usage ou d'écosystème. Et je pense qu'on le voit assez bien avec PandoBac. C'est ça qui a été déterminant pour le jury. C'est vraiment ce passage à l'économie servicielle, ce qu'on appelle aussi l'économie de la fonctionnalité, qui finalement change complètement la logique et qui nécessite, on le voit, de... on l'a dit, de travailler différemment, d'aller convaincre les acteurs de passer à un modèle de location plutôt qu'à un emballage à usage unique. Et c'est ça qui était intéressant. Et puis bien sûr, l'ancrage territorial aussi de PandoBac qui était à Rungis et qui travaillait avec tous ces acteurs de la chaîne et sur un sujet qui était nouveau à l'époque pour nous sur ce segment de la restauration. On travaillait déjà avec certaines startups sur le réemploi, mais c'était encore, comme l'a dit Chou, assez novateur.
Très clair. Et il me semble que tu avais peut-être une question. En tout cas, tu voulais revenir sur le nom PandoBac.
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup l'histoire du nom PandoBac. Donc Chou, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire ?
Oui, alors on a passé beaucoup de temps à réfléchir à ce nom, donc je suis contente que tu apprécies l'histoire. En fait, Pando, du coup, c'est alors c'est du latin à la base, c'est je m'étends. Du coup, aujourd'hui, tout le monde connaît pandémie, donc c'est facile. C'est la même racine. Et nous, à l'époque, il n'y avait pas encore la pandémie. Ce qui nous avait plu, c'était déjà de dire, on veut étendre nos bacs partout. Et en plus, du coup, ça a donné le nom, enfin, Pando, ça a été pris pour le nom d'une colonie d'arbres aux États-Unis qui, en fait, se clone et s'étend en se clonant depuis 80 000 ans. Donc ça fait c'est le plus vieil organisme vivant sur Terre. On trouvait que ce symbole était beau, quoi, de dire on s'étend et surtout on est durable, on reste dans le temps.
Génial. Et Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est matérialisé l'accompagnement apporté par Citeo dans le cadre du Circular Challenge ?
Oui, alors l'accompagnement, c'est déjà de la visibilité, bien sûr, sur le temps de la soirée, de la révélation des lauréats, mais ça s'inscrit aussi dans le temps, puisque pour nous, c'est hyper important de construire une relation de long terme avec chacun des alumni, on les appelle comme ça maintenant, de la communauté Circular Challenge. On en a à peu près une soixantaine, à raison d'une dizaine de finalistes par an. Et on essaye vraiment de s'inscrire sur le long terme avec eux. Et donc, on est toujours ravis d'être aux côtés de Chou d'avoir l'occasion de l'entendre régulièrement sur des conférences, des événements qu'on organise ou comme ici sur des podcasts. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, c'est beaucoup de... Je pense de mise en relation, de mise en réseau et de rencontre, aussi bien avec des parties prenantes internes chez Citeo que externes avec des clients ou des partenaires potentiels. Et puis également des, on va dire, une ouverture de porte peut-être plus générale. Là, je sais que Chou vient d'intégrer la résidence du durable à la mairie du 10e arrondissement, partenariat avec les Canaux, donc acteurs de l'économie sociale et solidaire sur Paris. Et Citeo est partenaire de ce lieu, donc la résidence durable, pour travailler du coup au lien entre économie circulaire et économie sociale et solidaire. Donc quelques exemples.
Ouais, c'est intéressant parce que là, c'est le troisième épisode du coup dédié au Circular Challenge de Citeo et on le voit dans les témoignages du coup des startups que vous avez accompagnées aussi, que ça s'arrête pas à l'année finalement où ils sont lauréats de ce challenge, mais que c'est vraiment un accompagnement sur le temps long, sur différents projets aussi qui dépassent le cadre de ce challenge. Donc c'est hyper bénéfique, je pense, pour les porteurs de solutions.
Et de ton côté, Chou, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, enfin, quelles avaient été tes motivations à l'époque de candidater au Circular Challenge ? Et est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à l'accompagnement que tu as reçu sur peut-être les apports ?
Nous, quand on avait candidaté, c'était au tout début de l'aventure. On avait créé en 2018, on avait candidaté en 2019. Donc, au final, on avait assez peu d'accomplissement très concret et en fait on avait candidaté en se disant effectivement ça donne une visibilité, c'est un tremplin, ça peut justement amener à des très belles mises en relation, donc tout ce que effectivement Anne-Sophie a dit, hein, c'était ça. Et clairement on n'y croyait pas trop parce que Citeo ça reste toujours maintenant, et surtout à l'époque, c'était très emballage ménager. Et nous, vu qu'on s'occupe que des emballages professionnels, c'est vrai que j'avais mis assez peu d'espoir sur cette candidature, pour tout dire. Donc, le fait d'être lauréat, c'était vraiment, vraiment... on était hyper contents. Et aujourd'hui, pour rajouter, dans le sens d'Anne-Sophie, je suis en contact très régulièrement avec les équipes de Citeo Innovation. D'équipe innovation. Et je n'hésite pas, vraiment pas, à les solliciter quand j'ai des questions, quand j'ai envie d'une mise en relation. Après, ils peuvent le faire, ils peuvent pas le faire. Mais je sais que c'est vraiment une relation de confiance. Et j'ai créé aussi des liens vraiment avec les gens de l'équipe de Citeo. J'ai grand plaisir à croiser à des événements. Donc, il y a vraiment un lien de confiance, je dirais, avec les équipes. Et j'ai été aussi récemment, ça fait déjà presque 2 ans, on est venu me chercher. D'ailleurs, c'est toi qui m'as appelé, je crois, Anne-Sophie, pour faire partie du comité de mission de Citeo, quand Citeo est devenue entreprise à mission. Je fais partie effectivement des premiers membres du comité de mission de Citeo.
Anne-Sophie, du coup, tu peux peut-être nous repréciser ce qu'est un comité de mission dans le cadre d'une entreprise à mission.
Oui, tout à fait. Donc, du coup, Citeo est devenue entreprise à mission en 2020. Et le comité de mission, finalement, c'est l'organe qui suit l'exécution de la mission que s'est donnée l'entreprise et puis surtout qui challenge, qui amène à porter un peu plus d'ambition et qui est composé de personnalités extérieures et aussi d'un représentant des salariés de l'entreprise. Dans le cas de Citeo, du coup, notre comité de mission, il est présidé par Patricia Ricard, qui est présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, qui est engagée dans la protection de l'environnement et des océans depuis plus de 30 ans. Et puis bien sûr, on a souhaité du coup avoir un représentant de la communauté Circular Challenge et surtout quelqu'un qui porte du coup, l'innovation au sein de ce comité de mission et puis une ouverture, parce que c'est ça qui est important dans ce comité, c'est d'avoir vraiment une diversité de points de vue. Et donc tout naturellement, on a pensé à Chou qui a accepté et donc voilà, qui est aussi membre de ce comité.
Très bien, et il me semble aussi que le recrutement de la prochaine promotion du Circular Challenge est en cours. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Oui, tout à fait. Donc, on a un appel à projet annuel qui nous permet aujourd'hui de recruter une promotion de 8 startups qu'on va accompagner durant une année sur différents volets. Donc, bien sûr, l'économie circulaire, le modèle d'affaires, comment est-ce que je circularise mon modèle d'affaires, la mesure de l'impact. Et puis, on réalise aussi de plus en plus des expérimentations et des projets concrets avec du coup chacun de ces projets lauréats. Et en ce moment, on a nos 12 finalistes pour la prochaine édition qui ont été sélectionnés, qui vont prendre part à 2 jours d'atelier, 2 jours de bootcamp et puis qui participeront à la finale le 8 décembre qui se passera au musée du Quai Branly. Et donc j'en profite pour inviter tous ceux qui nous écoutent puisque nous aurons la soirée Circular Challenge durant laquelle on peut écouter les pitchs des finalistes et puis d'autres intervenants inspirants. La soirée sera sous l'angle des futurs de l'économie circulaire. Donc l'idée, c'est de prendre un peu de recul, d'évoquer les futurs et puis surtout les futurs souhaitables. Voilà, d'essayer de se projeter dans quelque chose de positif. Donc voilà, c'est ouvert à tous.
Et pour y assister, du coup, juste de façon pragmatique, c'est peut-être qu'il faut s'inscrire en ligne.
Oui, sur le site de circularchallenge.com, vous pouvez retrouver toutes les informations et bien sûr le lien vers l'inscription.
Et Anne-Sophie, tu parlais de futur, mais justement, si on se tourne un petit peu vers l'avenir, Chou, est-ce que tu peux déjà nous rappeler combien vous êtes aujourd'hui chez Pandobac et quelles sont vos perspectives d'évolution ?
On est 13 aujourd'hui chez Pandobac. On a globalement des équipes commerciales, des ingénieurs qui s'occupent de la partie opérationnelle, des opérateurs de lavage, bien entendu. On en a accueilli un nouveau la semaine dernière à Rungis. Et nos prochaines étapes, alors nous, on a différents défis, challenge, surtout pour l'année 2023 à venir. Donc nous, on est aujourd'hui assez bien connus et implantés, comme je disais, vraiment entre les fournisseurs, donc alimentaire, restauration, donc commerciale principalement. On a commencé aussi avec la restauration collective et un peu avec la distribution. Et là, la prochaine étape, c'est vraiment de passer à l'échelle en travaillant avec des industries agroalimentaires qui, pour livrer plutôt de la distribution, des supermarchés, également de la restauration, vraiment passer à un autre cap. Ça, c'est un de nos défis aujourd'hui. Donc on avance avec pas mal d'industriels sur le sujet, donc on est content parce que ça prend bien. Pour accompagner ce passage à l'échelle, on cherche aussi à lever des fonds pour l'année prochaine. Grand défi qui nous attendent pour 2023.
À bon entendeur. Pandobac est aussi membre du Club Circulaire. Le Club Circulaire, c'est un club qui a été créé par Circulaire, qui réunit 50 grands groupes et 50 porteurs de solutions comme toi, Chou, pour accélérer la transition vers une économie circulaire. Qu'est-ce que tu en retires ?
Alors, nous, on y est depuis le tout début. Alors, je me souviens plus bien comment on s'est retrouvé effectivement dans le club circulaire, mais c'était vraiment dès 2018, je pense qu'on était déjà là. Et en fait, les clubs sont vraiment hyper, enfin, c'est des moments hyper sympas, enfin, vraiment avec beaucoup d'échanges, des rencontres. À chaque fois, c'était plein de rencontres. On a pitché aussi plusieurs fois, parce qu'il y a toujours une petite session où il y a des porteurs de solutions qui vont pitcher leurs solutions. Et là, récemment, dans le cadre effectivement de notre développement avec les industriels agroalimentaires, moi, j'avais pitché en mars de cette année. Et il y a eu plusieurs entreprises qui sont venues me voir à la fin, dont le groupe Bell, du coup, industriel agroalimentaire. Donc, c'était parfait. Et là, on est encore en discussion, justement, pour vraiment collaborer et faire un pilote ensemble, quoi. Donc, ça mène vraiment des choses superbes, quoi.
On arrive à la fin, du coup, de cet épisode. Chou et Anne-Sophie, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ?
Je te laisse.
Écoute, oui, du coup, juste pour dire, Citeo est aussi membre fondateur du club Circule Air, et donc on est content aussi d'être à leur côté depuis le début, depuis 2018. Et pour nous, c'est aussi une façon d'interagir avec notre écosystème de façon un petit peu différente et un petit peu décalée. Et donc on est très content de ça. Et puis un mot de la fin pour dire que Circule Air Challenge l'année prochaine continuera du coup sur sa lancée pour accompagner, on l'espère, des nouvelles solutions innovantes sur l'économie circulaire, aussi bien sur, on l'a dit, sur l'éco-conception, sur le réemploi, sur lequel il y a encore beaucoup de défis à relever, que aussi sur la collecte et la mobilisation pour le changement de comportement, et puis bien sûr le recyclage également.
Moi, je voulais vous remercier déjà d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité. C'est très agréable comme échange. Et pour le mot de la fin, je dirais vive les emballages qui ont plusieurs vies.
Très, très belle conclusion.
On finira sur cette jolie phrase. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce 6e épisode des Circular Talks. Merci Sarah.
Merci Alexia, merci à toutes les deux.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre une note de 5 étoiles. Merci. À bientôt pour le prochain épisode.